Europe 1.
L'abus de faiblesse, il intervient lorsqu'une personne profite de la vulnérabilité d'une autre dans le but d'en tirer un avantage contraire à ses intérêts. L'abus de faiblesse peut être physique, psychique ou encore financier. Dans certains cas, ces manipulations peuvent plonger les victimes dans un état d'emprise face à leur bourreau, altérant ainsi leur discernement et leur capacité à agir. Comment se libérer de la manipulation mentale ? Comment reprendre une vie après avoir passé des mois sous emprise ? Comment faire à nouveau confiance lorsqu'on a été abusé ? Aujourd'hui, je vous propose d'écouter l'histoire de Xavier. À tout juste 18 ans, il a été recruté par une communauté religieuse très stricte et très controversée. Je suis Olivier Delacroix, vous écoutez le podcast Dans les yeux d'Olivier, alors soyez les bienvenus. Xavier.
Bonjour.
Bonjour. Comment allez-vous ?
Ça va.
Merci de nous accueillir chez vous, où on va évoquer votre vie. À l'âge de 10 ans déjà, vous aviez des envies d'être prêtre. Et on va voir qu'en 99, bien vous faites le grand saut, puisque vous rejoignez les Légionnaires du Christ. Vous faites allusion à des dérives sectaires.
J'ai mis beaucoup de temps à mettre des mots sur ce que j'avais vécu et comprendre que tout ce que j'avais vu, tout ce que j'avais enduré dans cette communauté n'avait rien à voir avec et la tradition de l'Église et une communauté religieuse saine, et qu'on était véritablement dans un environnement extrêmement manipulateur. Et c'est notamment en écoutant les témoignages d'anciennes victimes de communautés qui n'avaient rien à voir avec l'Église catholique que je me suis rendu compte que leurs témoignages étaient presque les mêmes que le mien. Il faut savoir que quand vous êtes dans ce genre de communauté, vous y allez souvent par conviction, parce que vous croyez véritablement que le Seigneur vous appelle dans ce genre de communauté. Moi, c'est ce qui s'est passé. Hein. J'ai eu un certain nombre de signes dans ma vie, de choses qui se sont produites dans ma vie spirituelle aussi, qui m'ont, disons, indiqué ou qui m'ont fait comprendre que Dieu m'attendait dans cet endroit à ce moment-là.
Mais est-ce que cette foi est toujours là aujourd'hui ?
J'irais même plus loin, je dirais que c'est cette foi qui me fait vivre, oui. C'est cette foi qui m'exige que je parle. Hein. Je suis resté catholique, je suis encore croyant, je suis encore pratiquant. Et j'ai compris un jour que tout ce que j'avais vécu, d'abord, n'était pas normal, et deuxièmement, que le salaud, c'était pas moi. Vous voyez ? Et que si je partais en claquant la porte et en disant l'Église c'est n'importe quoi, ben finalement je rendais pas service ni au Christ ni à l'Église, hein, et que c'était pas à moi de partir tout simplement. Enfin, voilà. Donc aujourd'hui, je n'ai plus peur, je dénonce, hein, sans embâge, au nom de ma foi.
Tu veux que je te l'envoie ?
Attention, hein.
Oh, zut, je crois qu'il va tomber dans le mimosa.
Au moins, il n'est pas chez le voisin.
Si Xavier a choisi de dénoncer ce qu'il a vécu, c'est aussi parce qu'il estime avoir été victime d'un abus de faiblesse.
Et voilà !
Adolescent mal dans sa peau, souffrant d'un manque total de confiance en lui, le jeune homme était un peu perdu lorsqu'il a eu une soudaine révélation.
Il se trouve que j'ai eu une adolescence assez compliquée et que j'ai rejeté pendant un certain nombre d'années tout ce qui avait été la foi de mon enfance. Et donc, c'est pour ça que quand j'ai eu 18 ans, j'ai voulu faire des études de philosophie, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas encore tout à fait accordé dans ma vie. Et à la fin de l'été, je suis allé aux Journées mondiales de la jeunesse et je suis rentré dans une église où il y avait un concert de musique rock chrétienne. Et le chanteur s'est mis à chanter une chanson sur la résurrection du Christ. Et en écoutant cette chanson, alors c'est quelque chose qui est vraiment... J'ai pas eu d'apparition d'un ange, j'ai pas eu rien de... mais j'ai ressenti une chaleur très très forte dans mon cœur. Quelque chose qui s'est mis à brûler. Et comme une voix qui me disait « Tu m'es revenu, mon fils bien-aimé ». Et du jour au lendemain, ma vie a complètement basculé. Je suis, moi qui étais un jeune torturé, qui était très malheureux, j'ai retrouvé le sourire. et avec cette certitude que derrière le vernis de l'existence, il y a une présence bienveillante de quelqu'un qui nous aime. Ouais. Et il se trouve que le hasard veut que j'ai fait cette expérience le mardi, et le jeudi, j'ai rencontré la Légion du Christ. J'ai rencontré des recruteurs vocationnels, alors je ne savais pas que c'était des recruteurs vocationnels, qui se sont vite rendus compte que j'étais sans doute dans un moment de ferveur spirituelle.
Oui, de réflexion.
Et je me suis jeté dans la gueule du loup.
Xavier fait la connaissance d'un prêtre qui l'invite à lui rendre visite quelques jours plus tard dans une luxueuse villa du 16e arrondissement de Paris. C'est là que la Légion du Christ, une congrégation internationale puissante reconnue par le Vatican, a installé ses quartiers français.
Je rentre dans un petit salon et là, je raconte mon histoire au... Il me dit qu'effectivement, on voit que tu as reçu une grâce extraordinaire et que notre rencontre ne doit certainement pas être due au hasard. Alors le problème, c'est que je suis jeune, que je manque complètement de discernement. Et c'est vrai que du coup, je m'accroche aussi un petit peu naïvement à cette idée que un prêtre ne peut pas me vouloir du mal ou ne peut pas avoir des mauvaises intentions. Et donc je me fie un petit peu à mon instinct et puis m'invite à Rome pour découvrir leur centre d'études supérieures et leur communauté, leur grande communauté, hein, à quelques encablures du Vatican. Il faut imaginer que les légionnaires du Christ possèdent à Rome un des centres les plus spacieux, les plus luxueux, des jardins magnifiques, vraiment quelque chose qui rayonne de propreté et d'ordre, vous voyez.
Ouais.
Je rentre dans cette communauté et je vois arriver des séminaristes, tous jeunes, tous beaux, tous sportifs, tous en soutane, qui semblent presque sur une chorégraphie. C'est quelque chose d'assez troublant. On rentre dans la chapelle, tout le monde se met à genoux en même temps. Bam ! Commencent les prières et toute la communauté répète, mais d'une seule voix, les chants parfaits, pas une voix de travers. Et intérieurement, je me dis, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est époustouflant. Deux ou trois jours après, on nous dit que nous allons avoir la chance extraordinaire de rencontrer le père Martial Maciel,
qui est le fondateur des légionnaires du Christ.
Voilà. Et tout d'un coup, je vois la porte d'entrée s'ouvrir et un caméraman, avec une énorme caméra, arriver en reculant, tac, 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 comme ça.
Incroyable.
Et voici que le père Maciel arrive, entouré d'un groupe de prêtres et de religieux qui n'ont Dieu que pour lui, et puis se met devant nous et nous dit un petit discours très, très court, consiste en « L'Église catholique va très, très mal. La France est devenue une terre de mission. Et vous, votre mission, ça va être de sauver l'Église en France. » Et voilà, notre mission était écrite. Moi, à l'époque, on m'a raconté des choses extraordinaires sur la vie du père Maciel. J'ai cru que j'avais rencontré l'homme le plus extraordinaire de l'histoire de l'Église catholique. Donc, rien que ça, je me suis senti quand même très honoré d'avoir fait la rencontre de quelqu'un unique, exceptionnel, hein, qui sans doute serait un jour déclaré comme un saint et un docteur de l'Église et un je sais pas quoi. Donc, un très grand personnage de l'Église catholique.
Au sein des Légionnaires du Christ, Xavier commence alors son noviciat qui dure 2 ans. Il y découvre un quotidien très strict, ponctué de discours idéologiques. De 5h à 22h, le jeune homme enchaîne sans répit conférences, prières, entraînements sportifs, méditations et examens de conscience. Une discipline militaire destinée à former une élite.
À partir du moment où vous entrez dans la Légion du Christ, vous devez devenir un autre Christ, un homme parfait, tel que le Christ le voudrait. Et donc, le père Maciel, qui a reçu ce charisme, ce don de Dieu, hein, il a mis au point toute une série de règles, hein, pour nous permettre de nous sanctifier. Donc, il y a des milliers de règles qui norme toute la vie dans la Légion du Christ. Par exemple, lorsque la sonnerie sonnait, donc signifiant qu'on passait à une autre activité ou qu'on devait se rendre à la chapelle, en un instant, tous les novices devaient se lever exactement en même temps. On mettait la main derrière le dos, on attrapait la chaise par la partie basse et on se levait exactement en même temps, comme ça, hop. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous te rendons grâce, Seigneur, pour tous tes bienfaits, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et on passait à l'activité suivante.
Et la journée est donc rythmée par tout un tas de gestes comme ceci.
Voilà, surtout dans la chapelle, évidemment, mais la façon de marcher, la façon de monter des escaliers,
de
les descendre.
La façon de marcher.
Bien sûr. La façon de manger une pomme. On n'avait pas le droit de manger une pomme avec les doigts, il fallait la couper avec une fourchette et un couteau. On n'avait pas le droit de piquer les frites. Donc il fallait, avec la fourchette, les soulever.
Pourquoi?
On ne sait rien, parce qu'on nous disait que c'était comme ça, que le légionnaire devait manger ses frites sans les piquer. C'est des petites choses, mais toutes ces petites choses ajoutées les unes aux autres faisaient que vous perdiez toute votre liberté. Et une fois par semaine, on avait la correction fraternelle, c'est-à-dire que par équipe de religieux, on se réunissait et on devait se corriger les uns les autres. Donc si on avait vu des frères commettre des infractions devant les autres, hein, on devait leur dire, frère untel, je vous ai vu en train de, je sais pas...
De piquer vos frites.
De piquer vos frites, voilà.
Eh oui.
Ou de courir avec votre soutane. Vous savez que d'après la règle numéro 253 du Code d'urbanité de la Légion du Christ, le légionnaire doit se déplacer de telle façon, etc. Donc on en vient à se méfier de tout le monde. On en vient à tenir un rôle, à être un pantomime. On s'isole petit à petit, jour après jour. Et toutes les relations qu'on entretient avec nos co-religionnaires deviennent des relations de façade. Hein. C'est-à-dire, en fait, pendant les premiers mois, on est dans une confrontation, un combat personnel, parce que on perd sa liberté intérieure, et c'est quand même douloureux. Hein.
Ouais.
Et puis, à un moment, on finit par abdiquer, on dit, je peux plus résister, parce que je m'épuise. Et donc on baisse les bras et on se dit bon ben voilà, maintenant je vais appliquer et je vais essayer de devenir un bon légionnaire.
Petit à petit, Xavier se sent comme déshumanisé et perd tout lien avec l'extérieur. Il n'a le droit de voir ses parents qu'un week-end par an et ne pourra pas assister, par exemple, au mariage de son propre frère. En 6 ans, il devient un parfait légionnaire avec pour mission de devenir à son tour recruteur vocationnel. C'est là où les méthodes de la Légion du Christ vont lui poser un réel problème.
Dans la Légion du Christ, faire du prosélytisme, ça veut dire quoi? Ça veut dire recruter. Hein, ça veut dire recruter, ça veut dire séduire, ça veut dire obtenir des bienfaiteurs, ça veut dire dragouiller des évêques. C'est ça, finalement, le prosélytisme.
Pourquoi dragouiller des évêques?
Parce que ce genre de communauté n'arrive à se maintenir dans l'Église qu'en obtenant des soutiens dans l'Église.
Oui.
Donc, tout est un rapport de séduction avec les autorités de l'Église. Donc, il faut commencer par gagner l'amitié des gens. Donc, quand c'est des bienfaiteurs, il faut trouver des moyens pour créer des rencontres. Mais en fait, les personnes sont déjà ciblées parce qu'on sait elles sont très riches. On crée une occasion de pouvoir les rencontrer. Et à partir de là, on essaie de tisser du lien. On essaie de gagner la confiance des personnes jusqu'à obtenir d'eux soit de l'argent, soit des services, soit... différentes choses. Moi-même, j'ai été en France quand j'étais dans la Légion du Christ. Alors, c'était vers la fin. Donc, c'était un moment où moi, j'étais vraiment pas bien du tout, perturbé. Ça a été un des éléments, d'ailleurs, qui a précipité ma sortie de la congrégation. Un prêtre légionnaire qui était comme ça dans le milieu de la jet set et qui essayait de chercher des bienfaiteurs avait réussi à gagner l'amitié d'une multimilliardaire américaine, mais qui vivait en France. La première chose qu'il avait réussi à obtenir, c'est qu'elle sorte de Paris et qu'elle aille s'installer dans une riche banlieue à côté de Paris pour mieux l'isoler. Et je me souviens qu'un jour, il m'a dit « Frère Xavier, j'ai besoin de vous, il faut que vous m'accompagniez ». Donc, on allait déjeuner chez cette femme et j'ai assisté à un spectacle, mais alors digne d'une pièce de théâtre de Molière. C'était absolument grotesque. J'étais effaré de voir ce prêtre qui n'arrêtait pas de faire des blagues complètement idiotes, de s'exclamer, tout dans la séduction, mais c'était du grand n'importe quoi. Tout ça pour obtenir à la fin un petit chèque avec plusieurs zéros.
Ouais. Donc c'est... Ce prosélytisme, vous dites que il a été le premier déclic hein, qui vous fait avoir mauvaise conscience, hein, clairement. Mais surtout lorsque vous vous apercevez qu'il touche des enfants.
Ben, en fait, quand vous recrutez un jeune à 10-12 ans, c'est pas difficile de le convaincre. Vous l'amenez à un camp d'été, il voit des frères qui font du foot, ils font un laser game, ils font des activités formidables avec. Il rentre du camp d'été, il est aux anges, le gamin va dire c'est formidable, je veux être frère, moi aussi, je veux rentrer dans cette communauté. Ah bah tiens, ça tombe bien, il y a un petit séminaire, et voilà.
On va évoquer justement la sortie. Cette prise de conscience.
Il n'y a jamais vraiment un déclic ou un moment particulier ou une prise de conscience. J'ai même envie de dire que c'est l'inverse. C'est-à-dire que la conscience est complètement anéantie. C'est juste un réflexe de survie. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on arrive à un point où on est tellement anéanti que quelque chose qui est vraiment de l'ordre du réflexe de survie dit « il faut que je sorte de là ». Je ne peux plus continuer. Tout simplement, je ne peux plus. Et si je continue, je vais devenir fou. Parce que ce rythme de vie, ce type de vie est inhumain, tout simplement. Et donc, c'est à ce moment-là, moi, où j'ai senti qu'il fallait absolument que je foute le camp. Parce que si je continuais dans cette communauté, j'allais finir en me jetant sur d'un pont où j'allais me suicider, je pense. Et intérieurement, je me suis dit, tant pis, je préfère aller en enfer plutôt que continuer là-dedans. Je préfère aller en enfer.
En 2006, Xavier décide de quitter la Légion du Christ. Il se refuse à jouer ce rôle de recruteur, un rôle qui le renvoie à son propre engagement et à la confiance aveugle qu'il a faite aux religieux qui l'ont approché à l'époque. Convaincu d'avoir fait fausse route, il revient vivre chez ses parents, totalement désemparé et rongé par la culpabilité.
À ce moment-là, je me sentais... pas digne du tout, je me sentais complètement perdu, vous voyez, l'impression de tomber dans le vide, de ne plus savoir du tout qu'est-ce que je vais faire de ma vie, qu'est-ce que je suis en train de faire, je vais être obligé de repartir à zéro dans la vie, j'ai aucun diplôme qui puisse me permettre de prendre un travail, c'est un saut dans l'inconnu, c'est une folie en fait. Comment vous allez justifier au reste du monde, à vos proches, à vos parents, aux gens qui vous ont suivi, aux gens qui vous ont admiré, aux gens qui ont donné de l'argent pour vous, comment vous allez justifier votre départ et le fait que vous reconnaissez que vous êtes trompé?
Depuis plusieurs années, le fondateur des Légionnaires du Christ faisait l'objet de graves accusations. En 2006 déjà, le Vatican avait retenu les accusations de pédophilie portées contre le père Massiel et l'avait écarté de tout ministère public. À son décès, en 2008, le scandale éclate. De nombreux témoignages attestent de son comportement manipulateur et mensonger, et plusieurs plaintes pour abus sexuels sur mineurs sont révélées. Les Légionnaires du Christ se voient obligés de dénoncer publiquement la double vie de leur fondateur. Pourtant, malgré une enquête interne, l'existence et les méthodes de cette congrégation n'ont pas été remises en cause.
Lorsque vous découvrez que le fondateur d'une des congrégations les plus influentes de l'Église, archi-présente au Vatican, qui est montré comme l'exemple à suivre par le pape, a été fondée en fait par un pervers polymorphe qui a violé des dizaines d'enfants, qui s'est drogué, dont toute la vie n'est que mensonge, manipulation, escroquerie. Lorsque vous découvrez ce genre de choses, il me semble que le bon sens voudrait que vous disiez « on s'est trompé ». On s'est trompé sur le fondateur, on pensait que c'était un grand saint, et puis on s'est fait rouler dans la farine, voilà. Et donc on ne va pas prendre le risque de laisser rentrer des jeunes dans une telle communauté, alors qu'on a toutes les raisons de penser qu'elle est gravement dysfonctionnelle. Il me semble que la moindre des choses serait de tout arrêter, de faire une enquête sérieuse, tout mettre à plat, de vérifier que la communauté est saine ou pas, et éventuellement de faire les rectificatifs qu'il faut pour assainir cette communauté. Et donc, lorsque je me suis rendu compte que, bah, que cette enquête, c'était du grand n'importe quoi, que les conclusions de l'enquête étaient manifestement décidées en amont, c'est à ce moment-là que j'ai créé mon premier blog. Alors, qui a eu deux réactions contraires et assez violentes. D'un côté, des attaques d'une violence incroyable de membres de la congrégation ou de personnes sous l'emprise de la congrégation, des appels malveillants au milieu de la nuit pour empêcher de dormir, des messages ignominieux. Et à côté de ça, au contraire, des témoignages effrayants, des choses qui m'ont bouleversé, parfois même pire que ce que j'avais pu vivre, hein, en termes de manipulation mentale. Et c'est là que j'ai décidé de créer un autre site internet qui s'appelle l'enversdudécor.org sur les questions de dérive sectaire au sein de l'Église catholique.
Venez par là, les enfants.
Vous êtes mariés aujourd'hui. Vous êtes heureux ?
Oui, 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 je suis...
Stop, c'est bon.
Les c'est le plus important, je pense, dans la vie, c'est vraiment de retrouver sa liberté intérieure. Et à partir du moment où j'ai réussi à mettre des mots sur tout ce que j'avais vécu et à retrouver aussi un chemin de foi, un chemin de... Parce que ça a été compliqué, hein. J'ai fait moi aussi l'expérience d'un dégoût extrêmement violent à l'égard de l'Église. Ouais. Je pouvais plus mettre les pieds dans une église, c'était devenu très très compliqué pour moi. Et puis les choses se sont apaisées. Et aujourd'hui, oui, je rends grâce au Seigneur de m'avoir permis de retrouver tout cet équilibre dont j'ai vraiment besoin. Alors voilà, j'ai dû renoncer à devenir prêtre, hein. Et je l'accepte, hein. Je ne chercherai pas à me battre pour un jour devenir prêtre. Maintenant, si dans 10 ans ou 20 ans, l'Église ouvre la possibilité à des hommes mariés de devenir prêtre, est-ce que je demanderai à devenir prêtre ? J'en sais rien, peut-être, on verra. On verra en son temps.
Merci mille fois de m'avoir accordé de votre temps.
Merci.
Merci beaucoup.
Je vous remercie pour votre écoute.
À bientôt.
Au revoir, Olivier.
Au revoir.
La révélation du double visage du Père Maciel a permis à Xavier de se convaincre qu'il était dans la vérité. Une vérité qui l'a aidé à se reconstruire, même s'il m'a confié avoir mis 6 ans à y parvenir. À quelques mois près, c'est le temps qu'il aura passé dans la Légion du Christ. Le podcast Dans les yeux d'Olivier est une création Europe 1 Studio. Production, Lisa Soster. Réalisation, Christophe Davio. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez cliquer pour vous abonner et être averti dès qu'il y a un nouvel épisode. C'est gratuit. Alors je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très très bientôt.